Nous sommes le jeudi 9 avril, il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Bah ça va et toi ?
Eh bien écoute, j'allais dire j'ai trop chaud, mais ma foi, hier j'ai pu mettre du bruit pour plein de gens, donc c'était très bien.
Effectivement, oui. Une autre émission.
Voilà, une autre émission.
Des infidélités.
Oui, bah c'est pas sur
radio.
C'est pas sur Radio Canu, donc ça va. écoute Romain, cette semaine a fait une grève. Vu qu'il a normalement une émission que des millions de personnes attendent sur sa chaîne Twitch tous les mercredis après-midi à partir de 13h quand il est à l'heure, mais là il a décidé d'être tellement à l'heure qu'il n'est pas venu.
Eh oui, mais c'est le quotidien qui a changé. Donc ce sera peut-être samedi.
Ah, d'accord.
Oui, il y a des chances que ce soit samedi après-midi.
Eh bien, innovation, changement et surtout breaking news. On a les nouvelles horaires de l'émission. Tu peux rappeler le nom de l'émission et où ça passe et comme ça ?
L'émission s'appelle À vos souhaits. Elle est sur ma chaîne Twitch, Ruvon, R-U-V-O-N, avec un underscore. Et ce sera normalement vers 13h30, je pense, ce samedi. Et c'est une exception. Habituellement, c'est le mercredi vers 13h.
Eh ben nickel, eh ben on a hâte de...
Et on parle de nouveaux jeux vidéo, de jeux que oui. J'ai... Des nouvelles pages Steam qui sont apparues, et puis d'actualité. Un petit peu comme on le fait ici, mais sur des sujets un peu différents.
J'ai cru que t'allais dire un petit peu comme ici, mais en mieux.
J'ai pas osé.
Tu l'as pensé très fort.
On l'a entendu d'ici.
J'ai failli dire sans tes interventions, mais ça aurait été trop ciblé.
Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Salut.
Bettina qui a décidé que, en fait, jusqu'à présent, grâce à nos réseaux sociaux, on est arrivé en 2015. Et là, petit à petit, on va arriver jusqu'en 2026, vu qu'on a désormais un Linktree. Merci
ouais,
à toi.
Ouais, mais du coup, c'est un travail de longue haleine. Voilà.
Non, mais bravo, effectivement.
On n'y est pas encore.
Ouais. C'est pas quelque chose qu'on aurait fait nous. Donc, on est impressionnés.
Et Bettina qui nous a aussi partagé quelques extraits vidéo de nos anciennes émissions c'est pas très sérieux tout ça.
du contenu pour les réseaux, tout pour le buzz.
Tu fais bien. Tu fais bien. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine ? Eh bien, on va parler d'un nom assez connu par les joueurs français, et en tout cas par les gens de l'industrie du jeu vidéo en France. On va parler de Nacon, un groupe qui traverse une zone de forte turbulence en ce moment, entre revers judiciaires, pression financière et gros problèmes de gestion qui pourraient être funestes pour ses employés. Mais d'abord, on va vous donner des nouvelles des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Merci. Donc le premier jeu dont je vais vous parler, c'est 7 du studio lyonnais Chaotic Games, qui sort le 10 avril sur Steam, c'est-à-dire demain, à l'heure où on enregistre cette émission. Je l'avais name-droppé pendant l'émission où on parlait du Steam Neckfest parce que je savais qu'il allait sortir bientôt. Je vous avais dit que j'en reparlerais, donc c'est maintenant. C'est un fast FPS solo, un boomer shooter comme on dit maintenant, avec du roguelite dedans. Donc un jeu pour les amateuristes de vagues d'ennemis, de boss énervés, de gros guns. Le tout en subtilité, évidemment. On incarne Seth qui affronte les légions d'Apophis. On a des
armes. Non,
non.
Non,
le refais pas.
J'ai rien fait, j'ai rien
ouais,
dit.
Je t'ai vu. On a des armes à distance, des capacités de corps à corps, un dash, des sorts. On peut aussi ralentir le temps avec l'arc, par exemple, ou attirer les ennemis avec le grappin. Plus les pouvoirs et les upgrades qu'on acquiert au fil des combats. Bref, on devient de plus en plus fort pour terrasser tout le monde, ou bien mourir et recommencer. Comme dans un roguelite, quoi. Un jeu brutal pour celles et ceux qui... Enfin, pour qui un peu de violence, ça détend. Voilà, tout simplement.
Comme ton émission d'hier.
C'est ça. le un peu surtout de violence, pas trop évidemment. Hein, écoutez pas la fin de l'émission. Je crois qu'on ouvre la, on en trouve la porte des enfers. Je me semble.
Ah, l'émission qu'on va quand même citer en entier, qui s'appelle Pit and Mush. Ouais. Et c'est sur Radio Métal.
Radio Métal, l'émission qui parle de hardcore et de tout ce qui s'en approche tous les une fois par mois.
J'allais dire, toujours sur, à propos de Seth, je ne connais pas son prix, puisqu'il n'est pas encore indiqué sur Steam à l'heure où je vous parle, mais au doigt mouillé, là, comme ça, je dirais 20€, et vous irez voir pour savoir si je me suis trompée ou pas.
Très bien, on va faire des prédictions comme ça sur les prix des jeux.
On reparle du prix des jeux. Est-ce qu'on ferait pas un débat sur c'est quoi le bon prix des jeux?
Moi, j'avais joué à la démo de Seth, parce qu'il a été présenté il y a 2 ans, 3 ans, à l'Indie Game Lyon.
En fait, ils sont venus 2 fois, ils sont venus l'année dernière et il y a 2 ans.
Ouais, je pense qu'il y a 2 ans, effectivement.
Parce que justement, ils ne pouvaient pas revenir cette année.
C'était celui d'il y a 2 ans, la première version.
Pareil.
Ça t'avait plu ?
Il y avait des trucs pas inintéressants dans le concept, et puis tu sentais que c'était une version qui n'était pas encore prête.
Oui.
Voilà, j'ai pas rejoué depuis, donc curieux de voir comment est-ce qu'ils ont fait évoluer le feeling également.
Moi, j'avais senti qu'en fait, j'avais bien aimé l'idée de de faire un Hades puis à la première personne.
Ouais.
Vu qu'en gros, on était dans des arènes, il y avait des monstres, on avait des pouvoirs, etc., etc.
Et c'était pas la Grèce, c'était
l'Égypte, mais c'est vrai qu'il y avait un truc qui ressemblait à ça là. Mais effectivement, en termes
de game feel peut-être,
de game feel, tu sais, de gestion de la foule, en fait c'est un peu ce genre de truc. C'est un jeu de gestion de foule un peu comme un Serious Sam par exemple, plus qu'un jeu où faut tirer de façon très précise sur un ennemi, quoi. Et effectivement, j'étais pas très à l'aise, mais c'était sur la démo il y a 2 ans, comme Romain. Donc,
et depuis, ils ont itéré plusieurs fois, ils ont fait plusieurs updates de la démo sur Steam, parce que voilà, il y avait une démo, là, aujourd'hui, elle est toujours dispo, la démo sur Steam. Je sais pas s'ils vont la laisser après la release, ça, j'en sais rien.
Faites-le.
Oui, laissez-les.
Mais du coup, voilà,
libérez les démos.
Ils ont itéré plein de fois, justement, depuis tout ce temps où la démo est dispo sur Steam, justement, pour améliorer tout ça. Et puis, je vais vous parler d'un deuxième jeu, c'est Abyss Crew, qui est sorti fin mars 2025.
Ah, on connaît celui-là.
Et oui, c'est un jeu de Paul, président et fondateur de l'association La Science Entre en Jeu, qui organise des scientifiques game jam dont on a déjà parlé dans de précédentes émissions. Il n'a pas travaillé entièrement seul non plus sur ce jeu, mais je ne me rappelle plus du détail. De toute façon, il me semble que les graphismes et la musique, ce n'est pas de lui, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc voilà. Abyss Crew, en quelques mots, c'est un jeu coop où chaque joueur et joueuse incarne un membre d'équipage de sous-marin, pilote, artilleur, sonar et ingénieur. Et on doit explorer les profondeurs abyssales pour trouver des minerais précieux et améliorer notre vaisseau, tout en faisant attention aux menaces qui rôdent dans l'obscurité des fonds marins. Mais si je vous parle d'Abyss Crew, c'est parce que Paul a décidé de rendre son code open source. Parce que Paul, il vient plutôt du monde de la recherche et ça lui semble naturel de rendre accessible ses travaux. C'est quelque chose qui se fait rarement dans le milieu du jeu vidéo. En gros, si je schématise, on va dire qu'il y a 2 visions qui s'opposent. Il y a les personnes qui veulent à tout prix protéger leur propriété intellectuelle, et puis il y a les personnes adeptes de l'open source, des Creative Commons et globalement du partage des ressources graphiques, textuelles, de programmation, etc.
Comme Nintendo. Non, pardon, c'est l'inverse.
Tout à l'heure.
Voilà.
Attends un peu.
Non, mais c'est la première partie de ta phrase. Hein. C'est ceux qui veulent absolument conserver leur
droit.
Et qui t'envoient des armées d'avocats.
Exactement. Tu peux même pas faire un tournoi de Smash Bros. Sinon tu...
Oui, parce que j'ai dit armée d'avocats, mais en fait, non, c'est les avocats armés.
Oui.
Ils viennent t'éliminer directement. C'est un autre concept.
Et Paul se dit que son code pourra intéresser ou être utile aux gens qui développent aussi des jeux. Et voilà, c'est une initiative dont je voulais vous parler. À mon sens, il n'y a pas une des 2 visions qui est bonne et l'autre mauvaise. Non, c'est vraiment juste 2 visions différentes et vraiment je comprends les deux. Et les codes open source peuvent notamment servir aux personnes autodidactes et donc c'est très chouette que ça existe.
Oui, c'est cool parce que du coup, moi j'avais effectivement fait plusieurs parties du jeu. À plusieurs, du coup, avec c'est un jeu qui prend vraiment tout son sens quand on est suffisamment nombreux,
quatre,
en fait,
pour,
voilà,
pour occuper tous les postes.
Je crois que c'est 4.
C'est 4 tout court, en fait. Il n'y a pas moins, tu peux pas faire un
commun. Si, tu peux faire moins, parce que tu peux changer en fait de poste pendant.
Oui, mais c'est 4 maximum, parce qu'il y a 4 rôles.
Oui, pardon, j'ai dit 4 au moins, alors que c'est 4 maximum.
Il y a 4 rôles, mais effectivement, tu peux switcher de l'un à l'autre en fonction des besoins, mais voilà, c'est un jeu qui demande énormément de communication et de coordination, parce que c'est le sonar qui va t'indiquer où tirer à l'artilleur, enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça à coordonner, et le concept est très sympa à plusieurs, effectivement, quand tu arrives à te coordonner, et même quand tu n'arrives pas à te coordonner, parce que tu perds en rigolant.
Oui. Bref,
mais c'est effectivement très, très cool comme initiative.
Moi, c'est à cause de ce jeu-là que Paul, je n'imagine pas sans son chapeau de capitaine.
Ah bah,
oui,
de toute façon,
il a sa casquette, il habite avec.
Oui, mais il dort avec, oui, je pense. Il se douche avec, c'est comme ça.
De toute façon, depuis qu'il l'a obtenue, cette casquette, il ne l'a jamais quittée. Jamais.
Personne ne l'a jamais vue sans.
Non,
d'accord.
Non, voilà. Non.
Je pense qu'il a, il y a peut-être une tonsure de moine. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Merci, Bettina.
De rien.
Le 25 février dernier, l'éditeur Nakon a annoncé être en cessation de paiement et demandé son placement en redressement judiciaire face aux difficultés financières de sa maison, mère Big Ben Interactive. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ce serait bien d'en parler, parce que quand on dit des noms comme Nakon, comme Big Ben Interactive, en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière, que ce soit des noms de studios ou des noms de jeux, et surtout beaucoup d'emplois. Et on s'est dit que ce serait pas mal d'en parler, et d'abord de vous dire, bah, en fait, c'est quoi Nakon, c'est quoi Big Ben Interactive, c'est quoi le lien entre les deux. Bettina, aurais-tu travailler sur la question.
Oui, j'ai préparé le sujet.
Oui, je vous en fais au moins une.
Je vais vous faire un petit historique rapide. Donc, Big Ben Interactive, c'est une entreprise française cofondée en 1981, basée
oui,
à Lille,
ça nous rajeunit
près
pas.
De Lille. Et oui,
ah ouais.
Tout à fait. Bah, j'étais pas encore née.
Moi non plus. Alors,
on a envie de faire jeune.
Pour tous les auditeurs, une des personnes de cette émission ment.
Alors, absolument pas. Absolument pas. En 81, j'étais pas né.
Bien sûr. Moi non plus.
T'aurais dit 82, je dis pas. Mais 81, j'étais pas né.
J'en étais où ? Big Ben Interactive aujourd'hui est spécialisé dans la distribution d'accessoires pour consoles ainsi que la distribution de jeux vidéo en Europe. La légende raconte que Big Ben Interactive a commencé sur les marchés des villes du nord de la France lorsque Alain Falk, l'actuel PDG, et Guylaine Ringard vendaient des montres avant de se tourner vers les produits électroniques. Le marché mondial du jeu vidéo étant dans sa seconde phase de croissance à cette période, l'entreprise s'est concentrée sur les produits électroniques en 1993. Et là, j'étais née. Big Ben Interactive signe alors des contrats de distribution avec les principaux éditeurs de jeux vidéo de l'époque et vend des produits en tant que distributeur officiel non exclusif. Alain Falk a progressivement investi dans la conception et la fabrication de ses propres accessoires pour consoles de jeux vidéo, cartes mémoire, manettes, volants, câbles, ce genre de choses. Et dans le même temps, il se lance dans la distribution exclusive de jeux vidéo cette fois-ci.
Et d'ailleurs, c'est par le business justement d'accessoires qui sont devenus connus,
ouais,
et qui a fait leur notoriété. Je sais pas pour toi Romain, mais moi qui ai eu un petit peu le côté console avant d'être sur PC, le côté tu voulais une manette moins chère, tu voulais une carte mémoire moins chère, tu prenais les Big Ben, tu savais que c'était pas terrible et que c'était des trucs biodégradables, mais c'était moins cher.
Et moi, j'avais jamais capté que c'était Big Ben Interactive, en fait.
Acheter leurs produits non plus, mais parce que ça m'intéressait pas, enfin, j'étais pas client.
Ils faisaient moins de trucs pour PC, il me semble, de toute
façon.
Oui. Pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. J'en étais où ? Donc,
Les jeux vidéo, sur la partie jeux vidéo.
Et attends, pas encore. L'accord signé avec Sega en 2001 pour la reprise de l'intégralité du format Dreamcast en Europe, y compris toutes les versions de logiciels en cours, reste l'accord le plus important conclu par l'entreprise. Et donc Big Ben Interactive devient un acteur majeur de l'industrie des jeux vidéo sur les principaux marchés européens, grâce notamment à l'acquisition en 1999 du leader de la distribution au Benelux, la société Atollsoft, la reprise en avril 2000 de Planet Distribution, le grossiste leader indépendant britannique, Et la création en avril 2000 d'une filiale en Allemagne, ajoutant à ça l'ouverture d'une structure de recherche et développement à Hong Kong en avril 2000 aussi. Mais toutefois, à partir de 2003, la période de croissance prend fin et donc Big Ben Interactive doit recentrer ses efforts sur les produits de son activité principale, la distribution de logiciels et les accessoires. Courant 2005, le Big Ben Interactive signe un contrat de licence avec Microsoft pour développer une gamme de périphériques pour la Xbox 360. En 2006, un accord de licence européen est signé avec Nintendo pour développer des accessoires pour la Wii.
On en reparlera.
En 2011, Big Ben Interactive signe un accord de distribution avec Turtle Beach, une société américaine qui fait des casques audio haut de gamme. En 2016, le groupe signe un partenariat avec Sony, cette fois-ci concernant des accessoires pour la PS4, sous la marque Nakon.
Ah, qui est donc apparu à ce moment-là ?
Ouais.
2019.
Ah, ça vient après. Là, c'est 2016.
Ah, c'est 2016. Ok, je pensais que c'était 2019. Non, non. C'est un peu avant.
Okay. En fait, la première fois que le nom sort, c'est 2016. Okay. Donc, pour ces fameux accessoires pour la PS4. Mm-hmm. Et en fait, c'est 2018 qui va marquer le virage vers l'édition de jeux vidéo. Okay. En 2018 et 2019, le groupe rachète 4 studios de développement, Cyanide, Kiloton, Echo Software et Spiders.
Qui bossaient tous avec Focus à ce moment-là.
Ah oui.
Oui.
Et ça a fait du remous justement dans le paysage français justement parce que on disait que c'était pas correct de faire ce genre de choses. Voilà.
Et Spiders qui à ce moment-là est à quelques mois de sortir Gridfall. Prend aussi pareil même période 2019 prend aussi une participation dans un cinquième studio italien celui-ci Lunar Great Wall Studio. Ensuite en septembre donc le 4 septembre 2019 Big Ben Interactive fonde une filiale autonome nommée Nakon pour la distribution d'accessoires mais surtout pour l'édition des jeux du groupe. En 2020 Nakon achète le studio belge Neopica. En 2021 Nakon acquiert 4 studios l'Australien Big Ant en janvier
puis... qui font surtout des jeux de sport australiens voilà. Et qui se vendent bien là-bas.
Puis le Lyonnais Pastèque Games en avril.
Villeurbanne.
Oh pardon.
rappelle-moi.
Ah oui, c'est vrai.
On peut rappeler les jeux de Pastèque Games.
Curse of the Dead Gods.
Et le dernier.
Et le dernier, c'est Raven's Watch.
Oui, Raven's Watch qui marche plutôt bien.
Qui marche
bien.
Fort, ouais.
Ouais. Puis le Canadien Creature Studio en août et le Français Star Games en octobre. En février 2022, Nakon fait l'acquisition du Français Midgar Studio et de l'Allemand Daedalic Entertainment.
Qui est un éditeur en plus d'être un, développeur. Enfin, c'est un, Daedalic, c'est un délire à part entière.
Daedalic, ça a été le visage du jeu d'aventure en Allemagne pendant des années. En
fait. Oui, puis même au niveau international, enfin, c'est eux qui avaient ramené un petit peu le genre devant de la scène avec les Deponia. Et puis avec d'autres jeux qui
Oui, avec Satinav.
Les Chains of Satinav et Memoria qui sont dans l'univers de l'œil noir.
Oui, aussi.
Le Dark Eye pour les amateurs de livres dont vous êtes le héros.
Bien sûr, Silence aussi.
Ils avaient fait Silence. Enfin bon, ils ont fait effectivement beaucoup de jeux d'aventure à une époque et ils en ont développé eux-mêmes. Ils en ont édité également, développé par d'autres de partenaires.
Mais ils en sortaient quelque chose comme 6-7 par an facile.
Oui, mais il y a eu, à un moment ou à un autre, Daedalic, ils ont repris le Pendulo.
Oui.
Qui est le studio espagnol qui avait sorti
avant
Yesterday. Avant de le jeter sous le bus, globalement.
C'est l'histoire de Pendulo, hein, repris revendu à plein de gens.
Effectivement, le dernier truc qu'a commis Pendulo, c'est quand même le Tintin, les cigares du Pharaon, qui est une honte en termes de jeux vidéo et qui est une honte en termes d'adaptation de Tintin.
Pas chez Daedalic.
Non, mais qui est la faute de Daedalic.
Ça, c'est vrai.
C'est la faute de Daedalic, ça a été fait si le jeu est dans l'état où il est sorti.
C'est ça.
Mais bref, c'est un délire à part entière, effectivement. Ouais. C'était déjà assez. C'était, les autres que tu as cités, c'était des studios.
Oui, c'est vraiment des studios.
C'est un truc assez énorme.
Là, c'est un truc énorme parce qu'il y a également des licences, il y a également. Ouais. Voilà, il y a un portfolio qui va avec. C'était déjà assez gros comme truc.
C'est vrai.
Je sais pas si on a une idée du montant du rachat.
Alors, je l'ai vu, mais je l'ai pas noté. Du coup, je m'en rappelle pas.
Et le truc,
oui, c'était énorme.
Plus conséquent que simplement un studio d'une dizaine, vingtaine, trentaine d'employés.
Le truc, c'est que. D'ailleurs, je me demande s'ils l'ont racheté avant ou après Gollum.
Non, juste avant.
Juste avant.
Parce que Gollum est sorti sous le nom.
Aïe.
Oui, donc. Effectivement,
du coup, ce qui explique la décision immédiate de Daedalic après de. On fait plus de jeux, on fait que de l'édition.
Voilà. Juste après donc, la sortie de Gollum en 2022.
C'est ça.
Qui était un ratage assez monumental. Qui a été. qui a été présenté avec des images qui finalement n'ont jamais été présentes dans le jeu. Enfin, ça faisait partie de ces jeux qui ont été survendus avec des...
Quoi, t'as jamais vu Watch Dogs, toi?
Voilà, par exemple. Mais celui-ci, c'était flagrant, enfin, c'était impressionnant, quoi. Il nous avait montré pendant les E3, pendant les différents showcases, différentes conférences, on avait vu quand même des trucs assez impressionnants au niveau même de la modélisation de Gollum. Mm-hmm. Et au final, c'était visuellement pas au niveau, finalement, pas fidèle à ce qu'il nous avait montré avant. Et au niveau du gameplay, c'était un enfer. Donc le jeu s'est fait insulter absolument partout dès qu'il est sorti. La première chose que le studio, la première communication après la sortie du jeu de Dedelic, c'était des excuses.
Pardon.
C'était des excuses.
Et puis ils ont reconnu qu'ils avaient sorti un jeu qui n'était pas fini, en fait.
C'est ça. Ouais. Et c'était effectivement le... Dedelic, qui à une époque, comme tu le disais, était vraiment
respecté,
un saut de qualité dans les domaines des jeux d'aventure, dans les point and click et ce genre de trucs. Vraiment depuis, entre je parlais des Cigares du Pharaon, enfin il y a eu d'autres, pas mal de jeux en fait qui sont sortis d'affilée dans la galaxie Dedelic.
Oui, tu te souviens,
le Yesterday Origins aussi.
Je me souviens de State of Mind aussi, qui était... Alors, en gros, il est en bon état, mais il était en dessous des standards de ceux qu'attendaient la plupart des gens.
Effectivement, il y a eu globalement une pente descendante.
Mais State of Mind, par rapport à tous les jeux dont on parle, il est limite respectable par rapport à tout.
Il est pas mal.
Il est long et bref.
Oui.
Bref, c'est le débat des fans de jeux d'aventure.
En fait, il y a un niveau de qualité, si tu veux, qui est
pas ridicule. C'est pas un jeu honteux. Okay, ouais, je suis d'accord.
Ce qui est quand même plus compliqué pour les autres jeux dont on
parle. Non, mais il est pas jouable, Cigare du Pharaon.
Alors que, mais effectivement, donc on est vraiment parti de Dedelic, qui était une place forte du jeu vidéo, notamment allemand, parce que c'est une entreprise allemande.
Déponia s'est vendu à millions.
Oui, ils en ont fait 4.
Ouais.
Mais voilà, il y a eu une vraie baisse de qualité.
Ce sont des bons jeux.
Jusqu'au rachat de. Et puis depuis, ils éditent toujours des trucs, effectivement. Depuis, ils ont décidé d'arrêter le développement.
Et leur politique éditoriale est assez dure à suivre, d'ailleurs.
Elle part dans tous les sens. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cohérence.
Il n'y a peut-être pas de ligne édito.
Je pense que c'est vas-y, on fait des coups, on se démerde.
Ouais,
ça ressemble à ça.
Après, bon, ils sont pas si. Enfin, il y en a beaucoup qui font ça au final, mais c'est pas. Focus le fait depuis toujours.
C'est juste pour acter une grosse évolution, quoi.
Ouais, complètement. Pardon, du coup, on t'a arrêté.
Non, mais pas de souci. Donc ça, cette acquisition, c'était en 2022. Et donc, on arrive en 2023, 2024, qui sont des années qui sont marquées par les mouvements de grève chez Kiloton et Spiders. Et puis, en 2026, c'est le redressement judiciaire. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe?
Mais pourquoi ça va mal? En fait, le truc, c'est, comme tu le dis, la marque... On va dire Nacon, qui commence à racheter plein de studios à partir de 2018-2019.
Ouais, c'est ça.
Et il se trouve que malheureusement, il y a eu un gros succès, notamment qui était celui de Gridfall, mais globalement, depuis 2022, Nacon a... Alors, vous dites Nacon ou Nacon, vous?
Moi j'entends Nacon.
Ok.
C'est vrai que ça, en français ça sonne un peu moins.
Aujourd'hui sera plutôt Nacon, on va pas se mentir.
Ouais, non, voilà. C'est un peu compliqué aujourd'hui.
Il y a quelques mois, j'avais discuté avec une salariée de Kiloton qui a dit Nacon. Donc,
d'accord. Si le partons wording interne c'est Nacon, on va dire Nacon.
Partons sur Nacon.
Nacon a enregistré beaucoup de contre-performances, quand je dis contre-performances, c'est si on en croit les bilans financiers édités chaque année, il y a pas mal de titres qui ont été en dessous des espérances depuis 2022. On peut parler notamment de Blood Bowl 3, qui ça s'est très mal passé. L'année où ils ont perdu la licence WRC, donc en 2021.
C'est Kiloton, ça ?
C'était chez Kiloton.
Ouais.
Et ils ont perdu la licence WRC qui est partie chez EA et qui est revenue chez Nacon très récemment, mais qui sera pas faite par Kiloton pour des raisons qu'on va détailler un peu plus tard. Le jeu de Skate Session qui a pas assez bien marché. Steel Rising.
Ouais,
qui a eu un beau succès d'estime, mais pas moins que ce qui était espéré.
Que Gridfall. Ouais.
En fait, on en parlait antenne en préparant l'émission, parce que oui. Oui.
Quoi? Vous avez préparé l'émission?
Oui.
Je me désolidarise de cette. Non, rien préparé du tout, moi.
Oui.
Arrête, t'as dit que t'avais juste oublié tes notes, mais que t'avais fait des notes.
Ça va. Non, je pense que pour Steel Rising, ils espéraient peut-être pas un succès à la Lies of P, mais quelque chose qui y ressemble. Bah,
en tout cas, qui se rapproche de celui de Greedfall.
Ouais,
et c'est un bon succès qui s'est vendu à plusieurs millions.
C'est pas le cas de Steel Rising.
Steel Rising n'a pas atteint le million, je pense.
Voilà,
il s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
Oui.
Mais pas du même niveau, effectivement.
En tout cas, comme je disais, c'est en tout cas, dans les bilans financiers, c'est en dessous des espérances. Après, bien dans l'absolu, peut-être, mais en dessous des espérances. Hell Is Us a fait très mal, apparemment.
Ah ouais.
Il s'est pas assez bien vendu. Le jeu était très ambitieux aussi.
Ah, il a été très très bien reçu, je trouve.
Oui, oui.
Il y a eu vraiment des retours dithyrambiques dessus, mais
ouais,
pour les gens qui se sont mis dedans, en fait. C'est pas forcément un jeu très facile d'accès.
Je pense que c'est pour ça, mais ils en espéraient bien plus. Et puis, un peu oublié, Vampires the Masquerade Swansong.
Aïe, 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 oui.
Et ça, c'est Big Bad Wolf, hein, quoi, 2022,
2022, ouais. Et Ouch.
Ouais.
Ouais, ça s'est mal passé en termes de commercial.
Voilà, donc en fait, autant de revers qui s'allient mal avec la politique de croissance externe du groupe qui choisit de continuer sa route toujours à la limite, d'un côté en s'appuyant sur des succès comme ceux de Greedfall, de Styx et des gens qu'on oublie assez régulièrement, des jeux qu'on oublie pas, qu'on oublie parce qu'on n'y joue pas, les Pro Cycling Manager et les Tours de France.
C'est vrai, tous les ans, ils ont la licence.
Voilà, comme
deux tous les ans.
Voilà, c'est-à-dire Pro Cycling et Tour de France chaque année des succès. Alors pas aussi bien que les concurrents de Focus avec leur Farming Simulator, mais ils en vendent bien à chaque fois, quoi.
Mais oui,
et c'est surtout des revenus chaque année qu'ils ont, et c'est pas rien pour une boîte de ce type, quoi.
La question, c'est à quel point effectivement la licence Pro Cycling, la licence Tour de France leur coûte. Mais c'est des belles réussites commerciales. Et d'ailleurs, après l'information que tu as donnée tout à l'heure, le redressement judiciaire, ils ont annoncé Tour de France et Pro Cycling Manager 2026.
Évidemment.
Donc ils ont et toujours par cyanide.
Oui, c'est ça. Donc là-dessus, ça bouge pas. Le truc, c'est que même si ces succès sont probants, on continue quand même la croissance externe et ils sont obligés pour ça de s'endetter pour acheter des studios dont les succès ne suffisent pas pour payer et pour remplir la dette. Mais on vit quand même. Bon, on est endetté, mais ça va.
C'est une pyramide de Ponzi, c'est comme ça qu'on dit, non?
Tu
l'achètes pour payer les dettes des autres, enfin, bref.
Ah non, c'est plutôt la maison avec des taquets en polystyrène pour tenir le tout dans les fondations, tu vois.
D'un coup, il y a un loup qui arrive et qui souffle.
Alors, le loup s'appelle Nintendo, il se trouve.
Alors, et celui-là, on l'avait pas vu venir.
Si
on ne suit pas l'actualité de Nakon en termes vraiment de communication officielle,
Ah oui,
ils n'ont pas parlé de ça.
Ah non, ils n'en ont pas parlé, effectivement. Parce que pourquoi ça a foiré? En fait, il y a un premier domino qui est tombé fin 2025. Parce qu'après plus de 15 années de bataille judiciaire, Nintendo a obtenu gain de cause face à Nakon. Enfin, à l'époque, quand ils ont porté plainte, ça s'appelait Big Ben Interactive.
Big Ben existe toujours, hein,
oui.
En tant que chef au-dessus de tout ça.
Mais oui, c'est le groupe.
C'est le groupe. Par contre, comme c'est la partie qui a repris les accessoires, c'est Nakon, donc c'est Nakon qui a perdu.
Ok.
Voilà. C'est Big Ben qui devra assumer qui devra assumer le coût de tout ça, mais c'est Nakon qui a officiellement perdu.
Et perdu quoi du coup, enfin, pardon.
En fait, oui, c'est une décision qui a été rendue le 30 octobre 2025 parce que en fait le fabricant de périphériques a été condamné pour contrefaçon d'un brevet européen lié à la manette Wii. Tout à l'heure, Bettina nous parlait d'un accord fait avec Nintendo pour faire des accessoires pour la Wii. Il y avait des choses dans ces contrats-là, il y avait des choses pour faire les accessoires, dont les Wiimotes. Mais avec des choses qu'ils avaient le droit de faire, des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, notamment pour que, de manière générale, les produits de Nakon, à l'époque Big Ben Interactive, soient moins performants en fait que les
D'accord.
C'était, fait exprès, soyons clairs. Okay.
C'est moins cher, mais c'est moins bien, mais c'est accepté.
Voilà, c'est ça. En gros, Nintendo ne voulait absolument pas qu'il y ait des gens qui arrivent et qui fassent des choses qui soient au moins aussi bien, peut-être même mieux.
Ouais, qui remplacent finalement que les gens préfèrent acheter l'autre matos que le leur.
C'est ça, sachant que...
Aujourd'hui, ils ont réglé le problème. Ils laissent plus personne toucher à leur matos.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que là, on parle notamment de l'ergonomie spécifique de la Wiimote avec des capteurs, avec une caméra infrarouge pour connaître la hauteur en fait de d'où est la télécommande et l'accéléromètre en fait
ce qui est la représentation, enfin le mouvement dans l'espace,
c'est
de
ça.
La Wiimote pour
ça, et en fait le truc c'est qu'ils voulaient faire en sorte que ça soit pas aussi en fait c'était juste des choses pour que ce soit pas aussi précis.
Okay.
Quand Big Ben a sorti ses Wiimotes à eux, et en fait elles avaient aussi l'accéléromètre et la caméra infrarouge qui faisait qu'elles étaient aussi précises que et bizarrement en fait ça c'est l'accord a été fait en 2006. Il y a eu des premiers échanges en 2007 et le procès a commencé en 2010. Il y a 16 ans. Ouais. Oui, voilà.
C'est pas si souvent qu'on reproche à Big Ben d'avoir trop bien travaillé, mais. Mais c'est dommage que ça revienne leur mordre le cul 16 ans après, quoi.
Oui, alors le truc, c'est qu'en vrai, ça leur est pas revenu mordre les fesses 16 ans après, parce que dès 2011, la justice allemande avait reconnu la contrefaçon de Big Ben.
Ah oui, ok. Le mot contrefaçon, quoi.
Voilà. Une contrefaçon. Okay. Oui, parce qu'en fait, pour être clair, ils ont fait du rétro-engineering. Ils ont ils ont démonté une Wiimote. Ils ont dit, ça marche comme ça, on fait pareil, et c'est parti, quoi.
Mais ils étaient complètement au courant que c'était justement ce qu'ils ne devaient pas faire.
Entre 2011 et 2017,
oui.
Qu'a fait Big Ben ? Ils se sont dit, on va payer et puis on va arrêter. Ou alors, ils ont essayé de faire annuler devant les instances européennes et allemandes la protection revendiquée par Nintendo sur les brevets.
Okay.
Ils ont essayé de faire ça. Ça n'a pas marché.
Ah bon?
Ça n'a pas marché. Donc la décision a été confirmée en appel en 2017.
D'accord.
Ok.
Et entre 2017 et 2025?
Et entre 2017 et 2025, appel contre appel, sur appel, contre Uno.
Contre Kems, allez, c'est parti.
Voilà.
Ok.
Et le truc, c'est que donc, ils ont été officiellement condamnés à 3 millions d'euros d'amende, mais au vu de la longueur de la procédure, c'est x2.
Ouais, avis, rien que les frais d'avocat de Nintendo, c'est x2. Enfin,
voilà, c'est x2.
Déjà... Okay,
c'est x2.
C'est alors, 7 millions, c'est ça,
voilà.
En tout
c'était en, 6, 7... en tout, c'est 8.
Ah oui,
sur les chiffres, tu vois 7,
okay.
Mais c'est oublier la première procédure qui leur a coûté 1 million. Voilà.
Donc, qui était suspendu ou qu'ils avaient déjà payé à l'époque ?
Il est suspendu.
Ah ouais, d'accord.
Ça explique 2-3 trucs d'après.
Voilà. Quoi.
C'est ça.
Okay.
Ça fait beaucoup quand même.
Non, mais et du coup, c'était donc maintenant payer, tout ça, dernier recours fini, tout ça, c'est décision de justice.
Alors, ils doivent payer. Le truc, c'est que évidemment, ils ont encore tenté un autre appel qui n'est pas suspensif. Donc, faut payer.
D'accord.
Voilà. Je dirais quand même que cette affaire illustre, la qualité de ronce absolue de Nintendo quand il s'agit de procéder ses IP. On le savait déjà. Et c'est une fois de plus, c'est pour ça qu'on dit que faites pas trop les malins pocket pair. On sait pas ce qui va arriver ces prochaines années. Mais...
Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que effectivement, Nintendo, ils sont
15 ans.
Hein. Non, mais ils sont prompts à sortir l'artillerie lourde dès qu'il y a un problème sur l'utilisation de leur IP, de quoi que ce soit. Là, c'était un deal qu'ils avaient et que quelqu'un a pas respecté. C'est très différent. Tu vois ce que je veux dire?
Là,
c'est pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, si je faisais exactement pareil que Nintendo sur plein de trucs,
non.
Sans l'autorisation. Là, non, ils avaient l'autorisation de faire du matos officiellement reconnu comme étant compatible.
Ils ont dit, si on le faisait mieux, et comme ça ils verront rien. Nintendo, ils ont du genre à pas vérifier en plus.
Mais en fait, si on le faisait, surtout en ne respectant pas les limites qu'on nous avait données, c'est ça qui est fou, quoi.
Voilà.
C'est ça qui est fou. Parce que sinon, effectivement, pour Pocket Pair, on en reparlera, mais pour l'instant, Nintendo a perdu la première manche.
Oui, c'est pour ça. Mais
c'est pas terminé.
Just wait.
Terminé.
Enfin, les connaissants.
Oui. Il y a quelques centaines de millions de dollars à prendre.
On va dire que c'est pour ça, en fait. Au début, c'est vrai, sur l'affaire de Pocket Pair, je me disais, peut-être que c'est la fin du grand Nintendo qui... Ouais. Enfin, là, ils ont gagné au bout de 15 ans. Bon, ils sont capables
ouais, après, de. Après, ils ont 15 ans pour gagner 8 millions. C'est une question de principe.
Oui, enfin,
c'est. À la taille de Nintendo.
Non, mais ils s'en foutent, c'est Nintendo. C'est. Ils auraient gagné 100 euros qu'ils auraient dit oui, on a gagné. On vous fait une clé de bras, on s'en fout.
Ça, en fait, c'est pour ça que je rappelais que. Finalement, c'était dans leur droit, dans le sens où ils avaient un deal avec quelqu'un qui n'a pas été respecté. Ouais. C'est, encore une fois, ils se sont pas, comme ça leur arrive régulièrement, jetés comme des morts de faim sur des petits créateurs indépendants.
Ah non, non, mais comme je l'ai dit, c'est complètement la faute de Nakon et de Big. S'ils ont fait n'importe quoi.
On peut régulièrement cracher sur Nintendo qui ne laisse pas même les petits créateurs faire des choses de façon bénévole en reprenant leurs IP, leurs apparences ou quoi que ce soit.
Non, tu signes un contrat, tu le respectes pas, tu te fais niquer. Ça s'appelle la logique.
Effectivement, les conséquences. Les conséquences, c'est ça finalement. C'est Big Ben qui est en redressement peu de temps après.
Alors oui, mais en fait, comme j'ai dit dans la phrase intro, c'est le 25 février, donc quelques mois après que Nakon a dit on est en cessation de paiement. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux mois? Il se trouve que, comme je vous l'ai dit, avec cette politique de croissance externe, ils ont voulu acheter plein de studios, ils l'ont fait, et pour ça, ils ont emprunté de l'argent. Et là, en fait, on est en 2026, le jeu vidéo, ça va moins bien, l'action de...
il va très bien, mais il va moins bien. En fait, c'est pas une croissance aussi forte qu'ils aimeraient, mais le jeu vidéo se porte bien.
Le jeu vidéo va mal.
Arrête.
Non, plus sérieux.
Ça dépend si tu travailles dedans ou pas.
En fait,
si tu ramasses la thune, ça va. Hein.
Oui, voilà.
C'est qu'ils les investisseurs espéraient une croissance à deux chiffres et oh merde, c'est une croissance à un chiffre quoi.
C'est aussi que si tu empruntes en attendant une croissance à deux chiffres pour rembourser les emprunts,
c'est ça
peut poser d'autres problèmes.
Bah, en fait, c'est ça. Ils ont fait leurs emprunts en 2020.
À l'époque où
2019, 2020, 2021, oui. Où tout le monde disait vas-y, tu veux des sous pour du jeu vidéo, de l'emprunte. Ah et là on est en 2026 et tout le monde dit on voit qu'il y a des licenciements de partout de tout
Non mais clairement,
rend l'argent.
Mais c'est juste que voilà, je voulais bien préciser que en fait c'est pas que le jeu vidéo va mal, pas aussi bien que.
Oui non mais t'as raison.
Les gens espéraient.
T'as raison de le préciser.
Les gens en question c'est les investisseurs et du coup ils ont un vrai droit de vie ou de mort sur pas mal de choses.
Totalement.
C'est un vrai danger pour ceux qui travaillent.
Et c'est juste que voilà, j'entends un peu partout le jeu vidéo va mal, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend de quoi tu parles.
Non, on n'est pas sur des chutes de vente ni de.
Non, c'est les gens qui vont dans l'industrie, c'est chaud.
Oui.
Qui travaillent dans cette industrie, pas ceux qui investissent, pas ceux qui dirigent, ceux qui travaillent.
Ah oui,
ça c'est autre chose.
Là par contre, c'est la giga merde.
Là c'est la giga merde. Mais on est là, et là je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et donc les créanciers ont dit écoute,
il est où mon pognon.
Et donc Nakon s'est retrouvé donc à devoir payer les créanciers à hauteur de 49 millions plus une petite décision judiciaire à 8 millions en plus. Et là ils se sont dit pour rembourser nos créanciers, et si on faisait un emprunt à la banque? Ça serait pas mal, ça.
Alors, ça se fait beaucoup.
Oui.
La logique en elle-même, elle est...
Soyons clairs.
Du moment qu'en fait, t'as dû rentrer, t'as un flot de cash suffisant, c'est pas une mauvaise tactique, on va dire, de gestion d'entreprise.
C'est ça.
Mais
c'est un classique. D'ailleurs,
il faut avoir le flux.
Mais soyons clairs, c'est ce qu'avait fait, de toute façon, Nakon jusque-là.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les emprunts, c'était auprès de certains créanciers, mais le truc, c'est que tu empruntes une partie en créancier et une partie en bancaire, et tu fais tourner ça de façon régulière. Ouais. C'est pour ça que l'entreprise était structurellement toujours endettée. Mais en fait, elle arrivait à survivre justement parce qu'il y a toujours un flot de cash.
Et en fait, le problème, c'est que... C'est tant qu'on t'autorise des prêts, tant qu'on a confiance en toi suffisamment.
Et la banque a dit, alors, c'est bien simple, on a vu vos résultats depuis 2022. Votre action, elle baisse à fond. Vous n'avez plus de rentrée d'argent suffisante. On a vu vos performances sur les 4 dernières années. On ne vous prête pas d'argent. Et là... donc une entreprise qui se retrouve face à des créanciers qui leur dit tu donnes l'argent tout de suite et où la banque dit nous on t'en donnera pas, quelle a été la réponse? Redressement judiciaire.
C'est ça. L'autre solution c'est la mafia, mais non mais effectivement oui.
Donc en fait effectivement Alain Falk, donc le PDG de Nakon et de Big Ben Interactive, a reconnu
c'est toujours le même depuis 80
ans.
Donc même, pardon, 45 ans.
Voilà, oui. C'est toujours le même depuis 80.
Je rappelle que j'étais pas née.
Mais donc oui, 45 ans, le « est », et ils sont pas si nombreux à être là depuis, depuis le début.
Non, c'est ça. Et donc, il a reconnu un problème de dette, et donc, il a évoqué potentiellement des restructurations, mais il s'estime confiant en disant que peut-être on vendra des actifs.
D'accord, le projet, c'est de vendre de quoi rembourser, quoi.
Voilà. Et en gros, il dit... Je vais essayer de préserver au maximum l'emploi, mais je préfère les cessions de studios que des licenciements.
Mmh. Oui, parce que du coup, ce qu'il veut vendre, c'est des studios avec toute leur capacité de production, leurs IP, leur catalogue actuel, ce genre de choses.
Ouais, c'est ça.
C'est ça le projet.
C'est exactement ça, en fait. Le truc, c'est que la boîte, elle est dans l'impossibilité de rembourser une échéance de prêt d'environ 50 millions d'euros. Mmh. En gros, le Big Ben dit qu'ils avaient obtenu un accord de refinancement fin novembre.
D'accord, donc un peu après la décision de justice.
Ouais, mais en fait, je pense qu'ils l'ont obtenu en octobre et ils l'ont obtenu en octobre et que fin novembre, peut-être qu'ils l'ont obtenu fin novembre et que entre novembre et là maintenant, les frais, en fait, le fait que t'aies perdu un gros procès comme ça.
Ça va pas aider.
Ça aide pas, je pense.
Puis je dirais les ventes au final des différents studios sont.
Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était en gros que Nintendo c'était le premier domino, ouais. Mais qui a provoqué la chute. C'est pas ce procès qui a provoqué la chute, c'était. Ça leur pendait à force de vivre à crédit depuis quasiment 2019 en fait. Ouais. Ils vivaient à crédit quoi. Donc là en fait ils espèrent en gros, en tout cas dans le communiqué du 19 février, ils espéraient pouvoir tirer des ventes substantielles de leurs deux titres à venir, Styx Blazed of Grid et Gridfall 2.
Gridfall 2 qui était déjà sorti en Early Access, donc Gridfall, j'ai oublié le nom complet, ça s'appelle pas Gridfall 2, il y a un surnom. Mm-hmm. Effectivement, qui était déjà sorti en Early Access et qui est sorti d'Early Access, donc en version définitive, il y a 2-3 semaines à peine, mm-hmm. et qui est sorti avec pas mal de problèmes, mm-hmm. notamment des problèmes techniques, des problèmes qui montrent bien les difficultés dans lesquelles le jeu a été développé finalement, mm-hmm. la façon dont le studio a été géré. Spiders, on en avait déjà parlé. On en a déjà parlé, des mouvements à la direction, le reclassement de Jeanne Rousseau, oui. Son remplacement par Anne Desvoisoux, ancienne
présidente du SNJV.
Oula,
oui, t'as vu.
T'as vu?
Mais à chaque fois tu veux le dire. Mais, tu m'y emmenais.
Mais je sais qu'elle est communiste.
Elle ne le sait pas. Mais
malheureusement, effectivement, ça restera la CEO de Spiders à ce moment-là, moment où le studio. Donc ouais, une des conséquences donc du redressement judiciaire de Big Ben, donc qui ruisselle sur Nakon, oui. qui lui-même va continuer à pisser sur ce qu'il y a en dessous.
Oui.
C'est-à-dire donc redressement également mise en redressement judiciaire de Cyanide, de Kiloton, de Nakon Tech qui est la partie motion capture du groupe et donc du studio Spiders. Cyanide, Kiloton et Spiders, donc studio français qui ont eu, comme tu l'avais cité un petit peu pour Cyanide, les Blood Bowl,
oui.
Et également les jeux de sport comme les jeux de Pro Cycling Manager.
Oui, c'est ça.
Ils ont aussi, c'est eux, Styx.
Oui, Styx, c'est eux, Off Orcs and Men, les trucs comme ça. Off Orcs and Men, pardon, c'est Spiders, excuse-moi.
Spiders, effectivement, c'est Off Orcs and
Men. Cyanide, ils ont fait malheureusement, pour eux, un horrible jeu, Terre du Milieu. Un jeu Seigneur des Anneaux.
Ah ouais?
Ah bon?
Ah, pff, tragique.
J'ai pas en tête, mais je l'avais pas noté. Mais...
Un jeu de stratégie.
D'accord.
Aïe, aïe, aïe.
Ok. Spiders, effectivement, bon, son gros succès, Gridfall, le premier.
Une tradition de jeu de rôle, pour le coup, ouais. depuis très longtemps.
Des jeux de rôle entre ça, donc Off Orcs and Men, Technomancer, il y en a eu quelques-uns comme ça, effectivement.
Ouais, Mars Warlocks.
Qui avait des très bons univers, mais qui avait quand même des petits problèmes de gameplay.
Des bons gros défauts. C'était bien de voir justement le studio en fait s'améliorer de jeu en jeu.
Oui.
Où tu disais à chaque fois, tu dis super univers, le gameplay est pas bon, mais tu sens qu'il y avait un truc et il y avait quelque chose. Et avec Gridfall, ils avaient trouvé enfin ce truc-là où tu avais un univers intéressant et un gameplay assez
à la hauteur.
assez alors à la hauteur, assez calqué sur du Dragon Age en tout cas.
Oui, oui, mais voilà,
au moins qui me fonctionnait, alors qu'avant c'était juste un gros bordel.
Et qui effectivement était un gros succès de 2019, donc un petit peu avant le rachat. Mm-hmm. Et ils attendaient, j'imagine, à peu près le même genre de succès sur la suite.
Ouais.
Qui n'aura pas été le cas pour plein de raisons, comme on disait, au niveau de la façon dont ça a été organisé, le management aussi interne qui avait un peu légèrement évolué, on va le dire comme ça. Il y avait eu effectivement ces histoires de grève dont on avait parlé, les revendications, en tout cas les plaintes et les doléances des employés qui se voyaient renvoyer chacun ou à Nakon par la direction de Spiders et à la direction de Spiders par la direction de Nakon. Bref, donc pour eux c'était compliqué aussi. Il y a eu pas mal de problèmes de genre. Cyanide, si on reparle de Cyanide, donc il y a également là aussi ça continue de ruisseler. Cyanide a une j'ai pas dire une filiale, mais enfin je crois que si, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Big Bad Wolf, ouais. Qui découle en fait de Cyanide et qui est un studio qui avait fait un gros succès d'estime avec The Council à l'époque, qui avait eu ce gros échec commercial dont tu parlais, Swan Song.
Ouais, sachant que ouais, The Council c'était une proposition sur les fameux jeux épisodiques,
ouais.
Qui
très narratif.
En gros après voilà très narratif après les succès des Telltales justement.
Ouais, on était un peu dans cet esprit.
Voilà, certains
Dontnod aussi, enfin on était
Dontnod, voilà avec Life is Strange, ça avait très bien marché et The Council avait alors beaucoup moins marché, mais il y a eu un vrai succès d'estime auprès de ça, auprès voilà. des gens qui ont bien voulu suivre l'aventure.
Ouais, c'est les gens qui savaient écrire. Ils l'ont montré d'ailleurs avec Swan Song, qui était un problème d'écriture, qui était un problème de gameplay globalement, d'équilibre.
C'est mou.
Les gens ne trouvaient pas au niveau. Bref, on pourrait faire la liste en fait des jeux qui ont plus ou moins fonctionné, mais on est effectivement sur une constellation, je dirais, de studios qui avaient beaucoup finalement de moyens. Enfin, quand on parle de Cyanide et que tu parles de Blood Bowl 2, Blood Bowl 2, c'est un succès monstrueux. Le 3,
ça a imprimé beaucoup d'argent pour Cyanide. Ouais.
Et pour Focus, du coup, à l'époque.
À l'époque, oui. C'est pour ça que ça avait fait du bruit quand, d'un coup, t'as Cyanide, Spiders, Kiloton, qui étaient tous chez Focus. Et c'est à partir de là aussi que Focus s'est mis à acheter aussi des studios, en fait.
Boulot,
parce qu'avant, Focus ne faisait que éditeur. Voilà.
Sans, finalement, il s'était pas protégé d'une action de ce genre.
Et donc là, désormais.
Mais du coup, oui, donc ces quatre entreprises sont maintenant également en redressement judiciaire, dont une au moins dont on a l'information, enfin même deux pour être complet. Spiders, donc on a vu passer effectivement l'annonce de mise en vente au repreneur qui veut bien. Globalement, comme tu disais et comme on parlait avant l'émission, ils n'ont pas mis de prix sur le projet, ils ont juste dit au plus offrant.
Ouais.
Bon, c'est un petit peu inquiétant, mais l'information la plus inquiétante dans cette mise en vente, c'est l'information du chiffre d'affaires annoncé pour Spiders pour, j'imagine, 2024, peut-être 2025, je sais pas quel est le...
J'espère pour eux que c'est 2024.
Ouais, vraiment, parce que ils disaient donc 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est ridicule pour...
En gros, pour une entreprise de 50
ouais, c'est ça. C'est 43 employés recensés en 2024.
Ouais, c'est pas énorme.
Je sais pas combien c'est aujourd'hui.
Juste...
c'est pas énorme, mais c'est pas...
Pour une entreprise de services informatiques, pour survivre justement à partir du moment où t'as des locaux, t'as des locaux et
des salariés
et tout ça,
des salariés de niveau 4,
ouais, ouais, non, faut
compétences techniques, on parle là aussi de
minima 4 millions quoi.
Mais du coup, oui,
si tu veux que ça tourne.
Alors, on pense effectivement qu'il y avait sûrement un peu d'argent qu'ils avaient gagné à une époque, sûrement. Mais la trésorerie, comme on disait aussi, ça appartient au même groupe, ça peut se reverser, les vases communicants pour remettre là où ça perd.
Il peut se passer
des choses, on ne sait pas trop finalement comment ça s'est goupillé.
Et typiquement, surtout quand tu es dans un groupe globalement qui marche à la dette,
oui.
En fait, qui fonctionne à la dette, tu sais que t'as jamais de trésor, dans le sens où même le jour où t'en as, de toute façon, elle sera potentiellement utilisée pour éponger une dette. Donc,
c'est
comme si t'en avais pas, quoi.
Et peut-être que c'est ce qui s'est passé pour les éventuelles réserves que pouvait avoir Spiders à une époque, pour financer les différents investissements derrière. Pour l'instant, donc, on a les informations pour ces quatre studios. L'autre qui est en vente aussi officiellement, c'est Nakon Tech, mais qui est forcément un peu moins sur le devant de la scène.
Je connais
dans
pas du tout.
J'en
ai jamais entendu
parler. C'est un service de motion capture, donc c'est moins.
Ça doit
servir à tous les groupes, à tous les studios du groupe, mais c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant, ni qu'à un nom, finalement, avec des titres, des jeux réellement sortis sous ce nom-là.
Et puis pour revendre ça.
Oui, c'est bah, peut-être hein, en soi, bon, pourquoi pas. Hein, ouais. Mais oui, donc ça pose effectivement beaucoup de questions sur ce que va devenir Spiders, qui est clairement le premier à être abandonné par le groupe. Les autres qui sont en redressement judiciaire, qu'est-ce qui va se produire? Si Spiders est racheté, et celui qui rachète, qu'est-ce qu'il fait avec les employés? Quel est le projet? Quel est le travail qui est actuellement en cours? Il y a effectivement officieusement, il y a une nouvelle IP qui est en cours de développement. C'était de façon parallèle à Gridfall, la suite de Gridfall. On ne sait pas non plus où est-ce que ça va. Cyanide donc va annonce toujours des jeux, comme on l'a dit tout à l'heure sur les jeux Tour de France par exemple, ou même Blood Bowl. Ils ont sorti une sorte de standalone, un projet parallèle à Blood Bowl 3 qui reprend un peu les règles justement des précédents pour leur, en fait, une sorte de Blood Bowl classique pour les déçus des changements du Blood Bowl 3. Enfin, bref, il y a des choses comme ça qui se passent dans les studios dont on a parlé. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire quoi que ce soit parce que on n'a pas plus d'infos que cette mise en redressement judiciaire. C'est vraiment des infos très récentes. Voilà, le document de la publication de l'annonce pour la vente de Spiders date du 27 mars, un truc comme
ça. Oui, c'est ça. Mais il y a une fin, je crois. Dans 15 jours, je crois.
Oui, il y a une date de fin.
Ça se termine, ouais.
Non, ça va aller vite, ouais. Ça va aller vite.
Ouais, parce qu'en fait, comme l'argent doit être, ils doivent avoir de l'argent assez vite. En gros, c'est pas bon. On reste pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Non, c'est dans un mois. Et la vraie question, c'est là pour l'instant, évidemment, rien ne fuite sur est-ce qu'il y a un repreneur, est-ce qu'il n'y a pas de repreneur ou quoi que ce soit. La vraie peur pour beaucoup de gens, notamment en interne, de ce que j'ai vu en regardant un petit peu le réseau que vous adorez, qui s'appelle LinkedIn, c'est qu'est-ce qui va se passer si c'est pas repris. Si c'est pas repris, a priori, on va passer de redressement à liquidation.
En fait, c'est presque ça le plus étonnant, parce que tu liquides, tu perds une source de profit d'une certaine façon, alors que tu as besoin d'argent là maintenant. En fait, tu vas pas gagner d'argent en supprimant les trucs, si tu vois ce que je veux dire. Tu vas éliminer une source de coûts, donc les locaux, les salaires, etc. Mais tu vas pas récupérer de l'argent, ça va pas te donner de l'argent.
Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, c'est qu'en gros, s'ils se disent qu'en fait, ils préfèrent se mettre en liquidation pour dire de toute façon, on peut pas payer les gens.
Ouais,
on veut pas payer les gens,
voilà,
vu que de toute façon, l'argent qu'on aurait pu utiliser pour payer les gens, on veut pas l'utiliser pour payer les gens. Donc,
et en tout cas, dans ces studios-là, spécifiquement.
C'est ça.
Donc, qu'on connaît un petit peu, parce qu'ils étaient un petit peu sur le devant de la scène lors des diverses grèves dont on a parlé dans cette émission il y a quelques temps.
Oui, d'ailleurs, certains esprits chagrins que j'ai vus aussi sur toujours ce merveilleux réseau ont relié le fait que Spiders et Killotone tombaient parce qu'ils avaient des méchantes personnes qui faisaient des grèves chez eux.
Alors bizarrement, moi j'ai pas envie non plus de remettre tout ça sur le dos de Anne Desvoissoux, qui était CEO de Killotone avant de devenir CEO de Spiders, mais moi je dis, il y a un pattern.
Punaise. En fait, faut savoir, et c'était dans le communiqué du STJV, que en fait, tout ce que je raconte, le groupe qui vit,
le groupe vit bien.
Le groupe qui vit justement constamment endetté, en faisant des choix qui sont
de la banqueroute,
qui sont
de la limite de la banqueroute,
au mieux audacieux, au pire complètement, on se jette dans le vide.
Mais
quoi.
Surtout basé sur de la récompense entre guillemets à court terme, mais pas du coup de la pérennisation de l'activité.
Et ça c'était déjà dénoncé lors des grèves de 2023 de 2024, que ça soit chez Killotone ou chez Spiders.
Qui semble complètement découlé finalement du rachat par Nacon.
Oui, et d'ailleurs moi ce qui m'a presque étonné, c'est que en fait c'était Spiders qui était mis à vendre en premier et pas Killotone. Pourquoi? Parce que il se trouve que je vous ai parlé tout à l'heure de WRC.
Oui.
WRC est une licence en fait donc pour tout ce qui est le champion du monde de rallye. Ok. Le dernier jeu qui avait été fait par Killotone en 2020 avait sous-performé, et donc le champion du monde de rallye a dit on vous l'enlève, on le donne à Electronic Arts. Electronic Arts, avec tous ses moyens, a trouvé le moyen de faire pire. C'est-à-dire, en gros, vous saviez qu'il y avait des jeux de rallye ? Eh ben, apparemment, Electronic Arts non plus. Une folie.
D'accord.
Une folie. Après, on le sait, avec leurs jeux de voiture, typiquement, les Need for Speed qui sortent aussi totalement sous le radar. Bon, Electronic Arts. Et donc, après quelques années, en 2025, que dit WRC ? Bon, bah, écoutez, au moins avec vous, ça marchait un minimum. Donc, on le rend à Nacon. La logique voudrait que le studio spécialiste de voitures, les gens qui ont fait notamment ces test drive Solar Crown, enfin en gros, des jeux de voitures et qui sont spécialisés là-dedans quand même.
Ce serait censé être eux.
C'est pas eux qui vont le faire, mais un nouveau studio qui s'appelle Grid Games.
Donc ils ont créé un studio ?
Oui.
Très récemment ?
Oui.
Ok.
Un studio lyonnais.
Avec quel argent ?
Un studio lyonnais.
Ah, intéressant.
Avec et les gens qu'on a engagés, c'est plein de gens qui étaient à Kiloton auparavant. Mais avec un critère particulier.
Ils n'avaient pas fait grève.
Ils n'ont pas fait grève et ils ne sont pas syndiqués.
Pas mal.
C'est beau.
Là aussi, on trouve un pattern.
Et là, tu dis bien. bien.
Mais du coup, effectivement, ça pose.
Et par contre, ce nouveau studio-là, alors qu'ils n'ont pas d'argent ou quoi que ce soit,
ça a l'air de bien se passer.
Ils sont pas du tout concernés. Oui. Et d'ailleurs, tu vas sur le site de Nacon, il n'est pas dessus.
Ah, pas mal.
Pas dessus. Il faut aller sur la FJV et sur une fois de plus, l'endroit où vous voulez pas aller sur LinkedIn. Là, on trouve plein d'infos sur LinkedIn.
Depuis que t'as plus de boulot et que tu passes vraiment ta vie sur LinkedIn.
Mais c'est trop bien. Mes deux sites préférés, LinkedIn et l'annuaire des entreprises. On trouve beaucoup, beaucoup de choses intéressantes dedans.
Mais du coup, pour conclure, effectivement, la question va peut-être se poser très bientôt pour les autres studios du groupe, que ce soit donc les Villeurbanne de Pastèque, que ce soit les Lillois de Ishtar.
Ishtar Games, je sais plus d'où ils viennent.
Non, en fait, ils sont un peu éparpillés. Entre
Bordeaux et Lille. Je crois qu'il y a deux.
Dans ma tête, c'est plus Bordeaux, en fait, Ishtar, bizarrement.
Oui, mais pas que. Il y a un bout à Lille.
Okay.
Mais bref, il y a ceux-là, il y a tous ceux que tu as cités. Il y a Daedalic. Le groupe Daedalic, il n'est pas du tout cité dans le truc, alors que là aussi, il y a des IP, il y a du pognon à revendre, entre guillemets, si tu veux gagner de l'argent sur la revente de trucs, qui pour l'instant, t'as rien rapporté quasiment.
Je pense que ça t'a fait plus de trous qu'autre chose, Daedalic.
Pour l'instant,
Depuis 2020, ouais.
Ouais,
2022, il n'y a pas grand chose à en retirer.
Mais du coup, voilà, ça pose une vraie question parce que le groupe en Nacon en France emploie pratiquement 1000 personnes dans tous les studios qu'on a cités et ceux qu'on a oubliés réunis. Donc ça va poser des questions effectivement pour beaucoup de travailleurs et travailleuses du jeu vidéo en France. Et c'est une question qu'on évoque relativement rarement malgré tout dans les différentes vagues de licenciements. C'est quelque chose qui est beaucoup évoqué aux États-Unis notamment, et avec les derniers licenciements chez Epic, les 1000 personnes qui ont été licenciées très récemment, c'est la perte technique, en fait, l'expertise technique qui part de ça, qui pour certains sont pas simplement sortent du domaine du jeu vidéo tout simplement parce qu'il y a plus, bizarrement, il y a de moins en moins de postes ou de postes qui correspondent finalement au niveau d'expertise et au niveau de rémunération attendu par les compétences qui vont avec. Il y a des vraies évolutions.
Il y a soit ça, soit aussi les personnes au bout d'un moment finissent par vouloir se reconvertir parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui essore les gens et physiquement, mentalement et qui décide de changer du coup de
et à l'époque
dans des coins beaucoup plus rémunérateurs et plus stables.
Et à l'époque de l'IA qui vient aussi encore remettre un clou dans le cercueil sur le remplacement de certaines compétences et surtout le non renouvellement finalement des postes de junior notamment.
Quand tu vois tous
ça,
les
ça c'est extrêmement ça, enfin, l'impact va être monstrueux.
Bah, parmi mes connaissances déjà tous les gens qui ont un poste de dev quel que soit le domaine. Beaucoup de mal à retrouver du taf.
Ouais, parce que
très compliqué. Il y a rien qui s'ouvre.
Éventuellement, quand tu as de l'expertise, mais l'expertise, il faut bien l'acquérir par de l'expérience. Et si on te propose plus l'expérience parce qu'on te remplace par de l'IA pour tous les postes qui ne nécessitent pas d'expérience, cette dette technique et d'expérience en fait, ils en parlent de plus en plus aux États-Unis parce que c'est une dette en fait une expertise et des compétences qui sont en train d'être complètement délocalisées.
Alors,
dans d'autres régions du monde. En tout cas, par rapport au coût
dans d'autres
travail.
Régions du monde et surtout dans autre part que dans le jeu vidéo.
Oui, dans un autre secteur.
Dans un autre secteur.
Ouais,
moi, je te trouve quand même très négatif, parce que moi je me souviens que Tim Sweeney, lorsqu'il a annoncé
les
1000 licenciements, il a pas dit que c'était il a pas dit que c'était un drame, il a dit que c'était une opportunité et que il avait la chance de donner de présenter des gens extrêmement qualifiés au reste de l'industrie pour qu'ils puissent enfin en bénéficier.
Et donc on sait très bien que c'est pas ce qui va se passer, mais voilà, effectivement, bon bah les États-Unis,
vous avez pas confiance
c'est déjà
en Tim.
Non, c'est déjà un gros risque, même par rapport à ça, en fait, c'est vraiment ce problème d'expertise, simplement de gens qui ont déjà sorti des jeux, qui ont déjà fait le travail, qui ont cette expérience-là, qui vont en pâtir très très bientôt. Je vois pas d'autres alternatives, sauf si je sais pas, les dirigeants de Nacon, ils se mettent à jouer à l'Euromillion, qui trouvent d'un coup ils gagnent 127 millions d'euros.
Bizarrement, s'ils trouvent 127 millions d'euros, ils trouveront quand même le moyen de fermer tous les autres.
Oui, je doute bien que ce sera pas l'objectif.
En tout cas, ils vont trier les syndicalistes à l'entrée. C'est moi qui te le dis.
Comme tu dis, effectivement, c'était une très bonne remarque sur la création de ce nouveau studio qui a des critères de sélection.
Oui, voilà. Bah, il faudra. Mais après, moi, je veux bien inviter quelqu'un de Grid Games dans l'émission.
on va pas leur jeter la pierre directement à eux.
Non, parce que ce soit un dirigeant ou quelqu'un qui s'est fait embaucher ou voilà, peut-être que mes informations sont fausses, hein, pour le coup.
Mais peut-être qu'il y aura des anciens salariés. Enfin, du coup, si ces studios disparaissent, peut-être qu'il y aura des gens qui vont vouloir monter des studios indépendants. Ça arrive.
Ça se fait effectivement souvent.
Bien sûr.
On va voir à quel point ça remplacera.
Ça remplacera pas. Ce sera différent. Mais en tout cas, c'est des gens qui peuvent continuer de créer des jeux, potentiellement des jeux qui leur ressemblent plus aussi. Voilà, ça peut créer.
Le genre de jeu qu'on verra à l'Indie Game Lyon.
Par exemple.
C'est totalement intéressant.
Le 15 et 16 mai cette année.
Au CCVA. C'est gratuit.
Ah, on en parle.
C'est après libre, tout ça. On en parle la semaine prochaine.
Exactement. C'est incroyable. On sait une semaine à l'avance qu'est-ce qu'on va dire dans l'émission de la semaine prochaine, mais ça n'est jamais arrivé.
Et oui. Et donc
la semaine prochaine, on en a comme invité Bettina.
Wow. Et là, il y aura Léa.
Et Léa aussi. Yes. Et la semaine prochaine, Bettina ne préparera pas l'émission.
Et non, parce que je sais déjà tout.
Pas plus que d'habitude. Pardon.
Je travaille beaucoup là. Il y en a marre du travail gratuit.
Ça va être le moment de vous faire des bisous.
Eh oui. Ben, merci Bettina. Merci Romain.
Merci
on
merci
remercie également le collectif Presse F5 qui nous héberge, qui héberge le podcast Le Nerf de la Game et ainsi que Radio Caminu pour l'accès au studio. Vous nous retrouvez sur partout en fait.
Non, arrête.
Partout sauf sur Apple apparemment.
Il y a un Linktree.
Oui, il y a un Linktree maintenant.
Le Nerf de la Game, vous pouvez retrouver à peu près tout.
On est
sur
Blue Sky, Instagram. Et puis oui, il y a Spotify et
On est dans ta poche.
Wow. Voilà, c'est
Allez.
Ça.
C'est parti.
Voilà. Et
à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Salut.
Salut.
Ciao.